yo no le digo tío don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, don Samuel, hasta una bomba atómica inventó, pero es muy debilucho en el amor. Y como a usted la muerte le da placer, sobre el hombre indefenso la lanzó. Y le gusta la guerra, don Samuel, porque le sobran balas y soldados no le faltan. Además son valientes, don Samuel, a fuerza de lavados de heroína y marihuana. Don Samuel, si sus muchachos regresan a casa mutilados, medio locos, con aroma a mierda, usted lo arregla todo, don Samuel. Nadita de nada se le escapa, de desempleados le da un carnet y una medalla y la libertad, sobre todo la libertad de matar carajitos negros en Atlanta. Usted super de todo, don Samuel, y además de sabotear aviones, ya produjo su bomba de neutrones, que solo mata gente según dice. Usted es un descarado, un inmoral, aunque sus cancerberos lo defiendan, de la letra hasta la Z, se le llena de baba la jeta al mentirle al pueblo en nombre del tío Sam.
Dans un chapitre central du bouquin qui s'appelle « Les sept fléaux de l'Amérique latine », j'analyse comment cette dépendance, cette colonisation continue encore aujourd'hui. Certains d'entre vous ont lu sans doute un livre absolument magnifique de Eduardo Galeano qui s'appelle « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » et qui décrit les mécanismes de pillage, mais c'est un livre magnifique qui a été écrit il y a une quarantaine d'années. Entre-temps, les mécanismes ont changé, se sont perfectionnés, oserais-je dire, et donc j'ai décrit dans ce chapitre les sept fléaux de l'Amérique latine, et je vais en dire deux mots parce que je pense que c'est très très important pour comprendre le défi qu'affronte Chavez quand il arrive au pouvoir. Le premier de ces fléaux, c'est le pillage des matières premières. On ne va pas parler pour l'instant du pétrole et du gaz, mais on peut et on doit le montrer avec deux matières premières qui intéressent énormément les multinationales en Amérique latine. La première, c'est l'eau. L'Amérique latine, c'est le continent décisif pour la question de l'eau. Et l'eau, dans le temps, c'était un bien public, c'était un service public, personne ne se plaignait. Mais depuis 20-25 ans, c'est devenu une marchandise et les institutions d'État et européennes ont favorisé la naissance de 3 ou 4 très très grosses entreprises, dont 2 sont françaises, vous connaissez les noms, pour lesquelles l'eau est devenue un business. Ces entreprises, grâce à l'aide de l'État et de l'Europe, sont devenues parmi les 100 plus grosses multinationales dans le monde et l'Amérique latine les intéresse énormément parce que vous avez là 4 des plus grands fleuves de la planète, l'Amazone, l'Orinoco, etc. Vous avez là plusieurs nappes aquifères, dont 2 sont les plus importantes. Et pour vous donner une idée, il y a une nappe qu'on appelle de la triple frontière, la triple frontière entre Argentine, Paraguay et Uruguay, et Brésil, pardon. Et là, À Guaraní, c'est une nappe dont on a calculé que si elle est bien gérée, elle peut alimenter en eau toute l'Amérique du Sud et du Nord. Et à Guaraní, donc, vu cette importance, vous ne serez pas étonné d'apprendre que les toujours très vigilants services secrets des États-Unis ont détecté que juste à l'endroit de la nappe, il y avait des camps d'entraînement du Hamas, du Hezbollah et de Al-Qaïda, comme ils sont perspicaces. Et que donc il fallait installer évidemment une base militaire pour protéger ces ressources en danger, ce qui n'a pas empêché un certain George Bush, toujours très courageux, d'acheter 40 000 hectares dans la région. On ne sait jamais, des fois que le pétrole rapporterait moins, on s'investit dans les biens de l'avenir. Et l'eau, c'est vraiment devenu une marchandise, mais ça a des effets très graves. Par exemple, il y a une autre firme très active en Irak qui contrôle l'eau en Bolivie, elle s'appelle Bechtel. Et Bechtel a privatisé l'eau, par exemple, à Cochabamba. Bechtel a privatisé l'eau, par exemple, à Cochabamba. Et un point tel que les factures des gens ont gonflé énormément. On les imposait même sur les puits qu'ils avaient depuis des générations. Il y a eu une révolte. On a fini par chasser Bechtel, qui a réclamé à l'État bolivien, avant Evo, les indemnités, je crois, de 20 millions de dollars, un pays archi pauvre. Et donc, il y a une vraie bataille pour l'eau. Il y a une deuxième bataille très importante en Amérique latine, avec l'Amazonie, justement. C'est la bataille pour la biodiversité. Il y a 40% des espèces végétales et animales qui sont de la planète, qui sont là, en Amérique latine. Et ça, c'est le grand secteur économique qui va connaître un développement énorme dans le 21e siècle. C'est-à-dire qu'il y a des applications en pharmacie, en chimie, en alimentation, en clonage, en médecine, dans toutes sortes de secteurs, en fabrication de nouvelles matières. Et c'est très intéressant pour les grosses firmes chimiques, parce que si vous devez faire des recherches pour trouver des nouvelles molécules, etc., ça coûte cher. Là, il suffit d'aller avec un sac à dos, un sécateur, vous prenez quelques plantes et en avant, après vous revenez aux États-Unis, vous prenez le brevet et vous dites « c'est à moi, maintenant si vous voulez l'employer, vous allez devoir payer très cher ». Et donc il y a un véritable pillage organisé par une dizaine de multinationales de la chimie et de la pharmacie qui sont quasi toutes des États-Unis, une ou deux européennes. Et le problème, c'est que la ruée sur l'or de l'Amazonie, bon, vous avez le pétrole qui est l'or noir, vous avez l'eau qui est l'or bleu, et vous avez la biodiversité qui est l'or vert. Et vous avez une véritable ruée sur ces richesses qui se pratique de manière extrêmement barbare, parce que bon, en Amazonie, il y a ces richesses-là. Il y a évidemment aussi la culture de l'huile de palme, la culture intensive du soja qui est aberrante et installée là-bas par Monsanto notamment. Et vous avez aussi du pétrole dans ces régions. Donc l'Amazonie est extrêmement convoitée. Le résultat, c'est que vous savez, l'Amazonie est à cheval sur le Brésil, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie et la Colombie. Une très grande partie en Colombie. Et ce qui se passe en Colombie est très très frappant de la façon dont les multinationales considèrent l'avenir de l'Amazonie. Là, en Colombie, par exemple, la firme Del Monte, dont vous pouvez acheter les fruits dans n'importe quel supermarché, a pratiqué l'agro-business du bananier sur 22 000 hectares dans les hameaux de La Balsa et San José. Et pour déplacer les populations qui les occupaient et qui gênaient, on a recouru à des milices privées, des paramilitaires. Et durant, par exemple, l'opération Genesis, dans ces hameaux-là, ils ont torturé, fait disparaître et exécuté plus de 85 civils de ces hameaux. Afin de semer la terreur, ils ont égorgé Marino Lopez, puis ils ont joué au football avec sa tête devant la communauté. Quant à l'élimination des armes, c'est très simple, on disperse par les airs, par des avions, l'herbicide Roundup Ultra de Monsanto. Comme ça, on fait place nette. Et on chasse les paysans. On a beaucoup parlé d'une franco-colombienne qui est restée dans la forêt amazonienne un peu plus longtemps qu'elle n'aurait voulu. Mais on ne nous dit pas à la télé que le régime de M. Uribe en Colombie a déplacé 3 millions de paysans. 3 millions de paysans qui, eux, auraient voulu rester dans cette forêt où ils vivent depuis des générations, dont ils ont pris soin, qu'ils ont protégé, qui les fait vivre. Et comme ils gênent les multinationales, on les chasse par les méthodes que je viens d'expliquer. En plus, et là au Brésil, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, la culture intensive du soja et d'autres espèces agricoles chasse des millions de paysans de leurs terres. Ils sont obligés d'aller encore un peu plus loin pour récupérer des terres et donc de pratiquer la déforestation. Et enfin, certains d'entre eux, d'autres, ils vont s'entasser dans les bidonvilles. Et donc, on a vraiment un très, très grand problème de pillage des matières premières. Un deuxième fléau qui frappe l'Amérique latine, c'est le pillage de la main-d'œuvre. Au Mexique, d'abord, et puis en Amérique centrale, des entreprises des États-Unis, ça a été d'abord dans l'habillement, avec Gap et des marques comme ça, puis ça a été dans d'autres secteurs, ont fermé des usines qu'il y avait aux États-Unis et les ont installées au nord du Mexique. Et là, on fait faire le même travail pour 5 ou 10 fois moins cher par des ouvrières, souvent des femmes, qui n'ont aucun droit, pas de syndicat, qui sont hyper exploitées. Et évidemment, on dit que ça va développer l'emploi au Mexique, mais toutes les études montrent que non. Parce qu'en réalité, on amène les matières premières de l'extérieur, sont juste retravaillées là-bas, et puis ça repart vers les marchés étrangers. Et évidemment, encore une fois, le système des multinationales, c'est de payer cette main-d'œuvre avec les salaires les plus bas possibles. Et d'ailleurs, le Mexique, depuis que ce système a été installé, il y a 8 millions de Mexicains pauvres en plus. Donc, et ce modèle est en train de se répandre. Ce modèle que les États-Unis ont créé là-bas, c'est aussi celui que l'Europe est en train de développer en essayant de transformer le Maghreb, la Turquie, l'Europe de l'Est, les Balkans, dans ce qu'on appelle là-bas au Mexique des maquilas, le système des entreprises de sous-traitance avec des conditions de travail complètement dégradées. Donc c'est un modèle qui fait énormément de tort. Le troisième fléau qui frappe l'Amérique latine, c'est l'assassinat de l'agriculture. Je dis bien l'assassinat parce qu'en fait, on est en train de détruire complètement. Il faut quand même savoir que la moitié de l'humanité, elle vit encore de la terre. Il y a pratiquement 3 millions de paysans à ce jour. Et ce qui se passe au Mexique, par exemple, c'est typique. Si vous, dans les rues de Caracas, vous pouvez, par exemple, manger du maïs grillé, comme ici, sur des plaques, là, c'est délicieux. Si vous allez dans un supermarché pour acheter du maïs dans un bocal, là, il vient des États-Unis. Il est moins cher. Et il est subventionné par les États-Unis parce que, comme ça, on peut favoriser les grosses multinationales de l'agriculture aux États-Unis. On déverse les produits en Amérique latine. Ça se passe la même chose en Afrique, d'ailleurs, aussi. Les poulets européens subventionnés ruinent les paysans qui n'arrivent plus élever des poulets là-bas. Et le problème, c'est que les États-Unis, mais aussi l'Europe, essayent d'imposer ce genre de relation commerciale de dépendance aux pays d'Amérique latine. Et là, en Amérique latine, ça a commencé avec l'ALCA. Les États-Unis ont essayé d'imposer depuis le Canada jusqu'à la Patagonie, donc toute l'Amérique du Nord et du Sud, l'ALCA, un traité de libre-échange qui allait leur permettre de déverser leurs capitaux, leurs banques et leurs produits dans l'ensemble de l'Amérique latine. D'ailleurs, Colin Powell, qui était alors ministre des Affaires étrangères, disait « L'objectif de l'ALCA, c'est de garantir aux entreprises des États-Unis le contrôle d'un territoire allant de l'Arctique à l'Antarctique et son libre accès, sans aucun obstacle, à nos produits, services, technologies et capitaux. » Donc c'est vraiment une invasion économique, commerciale, financière totale qui place ces pays dans une dépendance terrible. Et donc ces traités, qui ont l'air en apparence d'être conclus entre des partenaires sur pied d'égalité, mais en fait pas du tout, quand les États-Unis s'amènent, évidemment, ils imposent pratiquement ce qu'ils veulent, ces traités ont failli plonger toute l'Amérique latine dans la dépendance, mais Chavez a refusé l'ALCA. Ensuite, le Brésil, l'Argentine et d'autres pays ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Et maintenant, les États-Unis sont obligés d'imposer des traités uniquement avec des pays faibles ou qui veulent être faibles, comme la Colombie, le Mexique, le Pérou. Et les autres ont refusé. L'ALCA est en panne. Et ça, c'est un très, très grand succès de Chavez. Un quatrième fléau qui frappe l'Amérique latine, c'est que ces pays sont en fait dirigés par des élites qui vendent leur pays. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la bourgeoisie comprador, en espagnol, une bourgeoisie qui achète, et en fait qui est une bourgeoisie commerciale, et qui dépend de ses liens avec les entreprises des États-Unis ou de l'Europe éventuellement. Et donc c'est une bourgeoisie qui agit vraiment comme agent de l'étranger. Au Venezuela, on a tout à fait cet exemple. La famille la plus riche du pays, ce sont les Cisneros. Et M. Cisneros, le père, a commencé sa fortune dans les années 30 en important des voitures, du Pepsi-Cola, toutes sortes de produits. Il est devenu très riche. Il s'est lié avec les Rockefeller, qui sont, on va en parler bientôt, qui sont les propriétaires, les patrons de la firme Exxon, du pétrole justement. Et en se liant à Rockefeller, ils ont acquis un énorme pouvoir et ils ont acquis aussi un énorme pouvoir économique. Ils sont devenus en fait la famille la plus riche du Venezuela. Tant qu'à faire, ils ont aussi acheté le président. Et ils ont permis à la famille Rockefeller de débarquer au Venezuela. Et à l'époque de Nelson Rockefeller, qui a même été vice-président des États-Unis ensuite, cette famille Rockefeller possédait 48% du pétrole au Venezuela, des banques, des terres agricoles énormes, des chaînes de supermarchés, etc. Et donc, un journaliste de droite disait qu'en fait, Cisneros était le vrai patron du pays et qu'il avait ses hommes dans tous les ministères et qu'il contrôlait absolument tout le Venezuela. Avec comme conséquence que des gens comme ça, cette bourgeoisie comprador, qui fait ses affaires grâce à ses liens avec l'étranger et en important des produits étrangers, évidemment, ils bloquent le développement de l'industrie nationale et de l'agriculture nationale. Donc ça, c'est très très important parce qu'ils empêchent la formation d'un marché intérieur. Bien entendu, quand il le faut, ils pratiquent l'évasion des capitaux et donc toutes les richesses du pays s'en vont à cause de ces gens-là. Plus brièvement, pour les autres fléaux, il faut mentionner la dette, qui est en fait... Ils ont imposé à des pays du tiers-monde la dette à partir des années 60-70 pour leur fourguer toute une série de produits ou d'usines ou que sais-je qu'on n'arrivait plus à vendre ici. Après, quand il y a eu la crise économique et la dévaluation du dollar et que les taux d'intérêt ont triplé, quadruplé, les pays ont été étranglés et sont intervenus la Banque mondiale et le FMI, qui utilisent la dette comme un instrument de chantage. C'est-à-dire que si un pays n'en peut plus et n'arrive plus à rembourser sa dette, on lui dit très bien, on va vous reprêter, encore vous endettez plus. Évidemment, pour vous reprêter, il faut que vous nous donniez en échange telle ou telle entreprise, publique ou privée, qui nous intéresse. Et là, on vient au sixième fléau qui frappe l'Amérique latine, c'est les privatisations. En 89, grâce à la politique de la Banque mondiale et du FMI, qui avait ruiné toute une série de pays en Amérique latine, aussi en Afrique et en Asie d'ailleurs, il y a eu un plan du ministre du Trésor US qui s'appelait Brady, qui a organisé la privatisation. On reprend votre dette, on l'étale, mais Brady a réussi à privatiser, tenez-vous bien, 1 millier d'entreprises d'Amérique latine, 1 millier d'entreprises de grande taille qui sont passées dans la poche des multinationales des États-Unis. À ce moment-là, on a vu pousser comme des champignons en Amérique latine quelques multimilliardaires. Vous avez eu une trentaine de multimilliardaires au Brésil et au Mexique surtout, qui sont nés avec ça, et notamment avec les privatisations. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, ça dépend, une année c'est Bill Gates, et une autre année c'est un certain Carlos Slim, dont on parle peu, mais c'est une histoire intéressante. Carlos Slim, sa fortune, c'était un petit au départ, mais il a fait fortune quand il a réussi à racheter le téléphone au Mexique, et là, il a fait exploser les tarifs, et il avait un monopole, et donc il a fait une fortune là-dedans. Entre parenthèses, le président du Mexique qui lui avait privatisé a aussi fait fortune, et ça on l'a appris plus tard. Et donc on a une trentaine de multimilliardaires qui ont fait éclosion grâce à cette dette et à ces privatisations, pendant qu'à Mexico, tenez-vous bien, il y a 80% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, 80% dans la capitale du Mexique. Le septième et dernier fléau qui frappe l'Amérique latine, c'est le vol des cerveaux. Je dis le vol et pas la fuite des cerveaux comme on en parle souvent. Parce qu'en réalité, c'est un vol organisé. J'ai décrit je reprends dans le livre quelques rapports sur ce problème qui est énorme. En fait, un tiers des scientifiques qui sont formés et produits dans le tiers-monde travaillent dans le Nord, dans les pays riches. Et le British, le très très officiel et solennel British Medical Journal, écrivait, lui, à propos des médecins, je cite, que le monde développé vole le personnel médical des pays africains. Les pays riches engagent du personnel médical étranger parce que c'est beaucoup moins cher. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il manque dans le tiers-monde 4 millions de médecins. 4 millions. 57 pays en souffrent. En fait, la British Medical Association disait « L'émigration des médecins des pays en développement tue des millions de gens et aggrave la misère. » Évidemment, parce que vous êtes en mauvaise santé, tout votre budget part là-dedans et ça grève l'économie. Donc on a le phénomène que des scientifiques, des techniciens très qualifiés et des médecins sont volés au tiers-monde. Les frais de formation sont faits par les pays où ils sont éduqués, et après, on prend les meilleurs, les plus intéressants, on leur paye des bons salaires, et on les pique. Des bons salaires, mais quand même beaucoup moins chers que les salaires qu'on paye ici. Et donc là, ça c'est intéressant, parce que les États-Unis, ils ont organisé ce système avec la fameuse green card pour aller sélectionner les immigrés qui les intéressaient, et ce système est en train d'être copié en Europe, en Allemagne, et notamment par un président qui ne vous est pas étranger et qui a osé employer le terme d'immigration choisie, et sans expliquer qui choisissait, bien entendu. Et donc, c'est ça, c'est cette politique d'aspirer les cerveaux du tiers-monde pour aider les grosses multinationales françaises et européennes.
Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. ¡Gojón! Los obreros de América Latina te dicen gringo, gojón, yankee, gojón. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home.
Le problème spécifique du Venezuela par rapport à tout ça, c'est évidemment que tout ça au Venezuela se concrétise particulièrement dans la question du pétrole. Et là, il faut en dire deux mots, et dans le livre, j'analyse cette histoire qui, elle aussi, confirme ce que disait Balzac. Derrière chaque grande fortune, derrière chaque grande fortune se cache un crime, en ce sens que les multinationales pétrolières, effectivement, ont commis d'énormes crimes dont on ne parle jamais dans les médias ni même à l'école, et qu'on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui si on ne comprend pas qui tire les ficelles et comment ils sont devenus aussi riches et aussi puissants. Et en fait, l'histoire industrielle économique du pétrole commence au Texas en 1859, quand l'exploitation industrielle débute. Et le pétrole aux États-Unis va se retrouver assez vite concentré entre quelques mains. Il y a un très beau film aux États-Unis qui a bien montré ça il y a 2-3 ans, qui s'appelle « There Will Be Blood ». Et le pétrole va se retrouver surtout concentré entre les mains de John D. Rockefeller, qui est un producteur de pétrole parmi d'autres, mais son coup de génie, c'est qu'il s'arrange pour contrôler les chemins de fer. Impossible d'exporter la production pétrolière sans passer par le rail, donc il impose des prix tels qu'il ruine beaucoup de ses concurrents et peut les racheter. Et donc il crée un monopole énorme. On a calculé qu'en fait, l'homme le plus riche dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas Bill Gates, c'est John D. Rockefeller. Le pétrole va ensuite prendre une importance énorme dans l'économie et on va le voir notamment en 1914, la Royal Navy remplace le charbon par le pétrole dans ses navires de guerre. C'est déjà un des enjeux de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale n'était pas du tout, comme on le dit dans les manuels scolaires, une guerre pour la défense de la patrie, c'était une guerre où les grandes multinationales de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, etc., rivalisaient pour prendre le contrôle du monde, prendre le contrôle des colonies, prendre le contrôle des richesses industrielles, et particulièrement des Balkans, parce que les Balkans étaient la route vers l'Inde, vers le Moyen-Orient, vers le pétrole. Et donc on a une rivalité entre la Grande-Bretagne, qui veut contrôler le pétrole du Moyen-Orient, qui installe des exploitations en Iran. L'Allemagne, elle, veut créer un chemin de fer Berlin-Bagdad avec la possibilité d'exploiter le pétrole. C'est un des enjeux déjà de la Première Guerre mondiale. On sait qui a gagné. Et ensuite, la France et l'Angleterre qui ont gagné vont se partager le Moyen-Orient avec les accords secrets Sykes-Picot. Et les Anglais prennent la plus grande partie du gâteau et du pétrole. Les Français reçoivent le Liban, la Syrie et une partie de la Palestine. Et de cette façon-là, le pétrole va jouer un rôle énorme dans le développement du capitalisme entre les deux guerres. Et les multinationales pétrolières, il y en a trois particulièrement, la Standard Oil qui va devenir Exxon et Shell, Royal Dutch et qui va s'appeler Shell et BP qui s'appelait à l'époque anglo-iranienne, etc. Bon, et ils s'arrangent, ils vont en 1928 dans un château en Écosse, ils se réunissent en grand secret et ils concluent un cartel avec deux missions. Premièrement, ils se répartissent les zones de production pour ne pas se marcher sur les pieds. Toi, tu prends cette zone-là, moi, cette zone-là. Et deuxièmement, ils s'entendent pour imposer les mêmes prix et des prix très élevés partout. Donc, ils vont construire des fortunes énormes. Et donc, là, on a déjà une petite idée des crimes des multinationales. Mais c'est rien à côté de pétrolières, mais c'est rien à côté de ce qui va suivre. En effet, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait avoir dans nos manuels d'histoire à l'école, Hitler n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans les multinationales pétrolières des États-Unis. Parce qu'il n'y avait pas de pétrole en Allemagne, il n'y avait pas de firme pétrolière. Vous savez que l'originalité, la nouveauté stratégique d'Hitler, c'était ce qu'on appelait la blitzkrieg, la guerre éclair. Avant, on faisait la guerre comme en 14-18, les tranchées, les positions, on n'avançait pas beaucoup. Et le nouveau concept, c'est au contraire de faire avancer très très vite les troupes au cœur de l'ennemi et de faire éclater le dispositif de l'ennemi. La blitzkrieg, la guerre éclair. Bien, quand vous voulez faire ça, il vous faut deux choses. Il vous faut des camions et il vous faut de l'essence. Hitler n'avait aucun des deux. Et qui lui a fourni? Des multinationales des États-Unis. L'essence a été fournie par Exxon. Et les camions ont été fournis par Ford et General Motors, qui avaient des usines en Allemagne, usines qui n'ont jamais été bombardées pendant toute la guerre, et qui ont continué à fournir Hitler pendant toute la guerre. Alors là, ce n'est pas du tout ce qu'on nous enseigne à l'école, que les Américains nous ont libérés, mon œil. En réalité, le capital des États-Unis, pas tous, il faut les dire, mais une grande partie, et notamment les firmes pétrolières, avaient en fait une volonté que la guerre dure le plus longtemps possible. Et ça a été exprimé notamment par Henry Ford, le célèbre Henry Ford, qui disait « Ni les Alliés, l'Angleterre, ni l'Axe, l'Allemagne et l'Italie, ne devraient gagner la guerre. Les États-Unis devraient fournir aux deux camps les moyens de continuer à se battre jusqu'à ce que tous deux s'effondrent. » Vous avez donc là une politique complètement machiavélique de faire en sorte que la guerre dure longtemps. Et aux Anglais, on fournissait des capitaux, parce que la guerre coûtait très cher à la Grande-Bretagne, donc on lui prêtait, et on lui a fait rembourser très cher après. Et à l'Allemagne, on fournissait le pétrole et les camions. Et donc il y a vraiment eu cette politique que la guerre dure très longtemps, dans le but que les États-Unis tirent les marrons du feu et deviennent la seule superpuissance au monde, ce qu'ils sont devenus. Et cette politique n'a été arrêtée que très tard, en 1944, lorsque les États-Unis se sont rendus compte qu'ils risquaient de perdre les marchés en Europe et en Asie et que tous ces continents risquaient de leur échapper. Bien. Après cette page honteuse de l'histoire des multinationales dont on ne parle jamais, on a eu la période qui a été caractérisée comme la période des sept sœurs, où sept grandes multinationales des États-Unis, Angleterre et Hollande contrôlaient l'ensemble de la production pétrolière dans le monde, depuis le forage et l'exploration jusqu'à la vente à la pompe. Et se sont fait énormément d'argent dans cette période-là. En fait, le pétrole aux producteurs, on ne le payait pas. Il s'achetait à quasiment 1 dollar le baril, 1 dollar pour 149 litres. Donc vraiment, on ne le payait pas. Et là-dessus, l'économie capitaliste a construit, dans les années 50 et 60, ça a été un grand facteur de son développement, c'est que la matière première qui faisait tourner toute l'économie, on ne la payait pas. On pouvait donc faire énormément de bénéfices sur cette matière gratuite. Mais évidemment, chaque chose a une fin, et à un moment donné, ça a provoqué une résistance des producteurs, et la naissance en 1960 de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Au début, tranquille, mais au moment où Israël est de plus en plus agressif envers ses voisins, et particulièrement en 1973, les masses arabes se révoltent contre des régimes qui font la complicité avec Israël et ses agressions. Et sous cette pression, et puis aussi parce que dans certains pays, il y a eu des dirigeants populaires, sous cette pression, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs, fait monter le prix du pétrole de 1 à 3 dollars et puis à 12. Panique aux États-Unis et en Europe. Et à ce moment-là, vous avez aux États-Unis le ministre de Nixon s'appelle Kissinger. Et Kissinger va développer une politique double pour absolument briser l'OPEP. Il faut absolument que cette association de producteurs qui exige un prix correct pour son produit, il faut la briser. C'est une résistance qui est intolérable et Kissinger voit le danger. Il convainc les Européens. Et donc, on va faire deux choses. On va constituer des stocks. On va faire spéculer sur les marchés au lieu de faire des contrats précis avec des pays, avec des contrats négociés. Et on va aussi augmenter énormément les taxes du pétrole. Alors ça, c'est curieux. Et Kissinger arrive à dire aux Européens, gonflez le prix du pétrole avec des taxes. Vous savez bien que quand vous achetez un litre à la pompe, en fait, vous payez 60% à l'État, qui ne va pas vous le reverser, mais qui en profite pour aider les entreprises avec ça. Et le calcul de Kissinger était très machiavélique, c'était de dire, si les gens en Europe et aux États-Unis payent le pétrole trop cher, ils vont être furieux contre les Arabes, et quand on aura besoin de faire une guerre contre les Arabes, les gens auront déjà l'esprit tourné contre eux. C'était vraiment un calcul délibéré. Et il y a une deuxième stratégie que Kissinger va inaugurer contre les pays producteurs de pétrole, c'est la guerre, tout simplement. Chaque pays qui résiste aux États-Unis ou à son agent Israël, chaque pays qui devient indépendant et veut commencer à contrôler son pétrole, on va le briser en l'attaquant ou en le plongeant dans une guerre. Il va y avoir les guerres Iran-Irak de 80 à 88, des millions de morts. Et là, un certain Kissinger va dire, rappelez-vous, il va dire exactement la même chose que Ford, il va dire, cette guerre, nous devons souhaiter qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'il en meure le plus possible des deux côtés. C'est vraiment la volonté de briser les pays indépendants. L'Afghanistan va être frappé, c'est pas un pays pétrolier, mais l'Afghanistan va être frappé par le successeur de Kissinger, qui s'appelait Brzezinski, qui va financer Ben Laden, le précurseur des talibans, pour aller renverser un gouvernement de gauche qui avait émancipé les paysans, qui avait émancipé les femmes, qui était un gouvernement de justice sociale, et surtout le calcul de Brzezinski, c'était que l'Union soviétique soutenait ce gouvernement de gauche, il fallait l'obliger à intervenir militairement en Afghanistan pour que l'URSS ait son Vietnam et une guerre en Afghanistan, et qu'il y ait moyen d'opposer les mouvements musulmans progressistes et anticolonialistes et de séparer leur alliance avec l'URSS, ce qui a réussi. L'Algérie a aussi été, qui était aussi un pays avec des ressources gazières et pétrolières importantes, a aussi été plongé dans des agressions et dans la guerre civile, avec un rôle des États-Unis là derrière. Je me mettant pas là-dessus, je vais simplement montrer que le prix du pétrole a été maintenu à un niveau artificiellement bas par toute une politique extrêmement agressive et extrêmement meurtrière. Le résultat de tout ça, c'est que au Venezuela, au moment où il va y avoir la crise économique et où le prix du pétrole va dégringoler, ça va plonger le Venezuela dans une crise économique grave. Il y a eu quelques belles années dans les années 50, début des années 60, avec le pétrole qui montait. Et ensuite, le Venezuela va plonger. Pourtant, le pétrole avait été théoriquement nationalisé en 76. On avait formé PDVSA, la Société du pétrole vénézuélien, société anonyme, qui, en principe, gérait les forages, accordait les contrats, etc. En réalité, c'était une façade et tout le fric du pétrole partait à l'étranger. Par une manière très simple, on faisait payer beaucoup trop bon marché aux multinationales étrangères et les bénéfices que la société réalisait quand même, on s'arrangeait pour qu'ils aillent à l'étranger où on a ouvert des raffineries aux États-Unis, en Allemagne. Aux États-Unis, ils avaient même 18 000 stations-service. De sorte que le pétrole là était sous-facturé et les bénéfices restaient là-bas et ne revenaient jamais. En 18 ans, la filiale très importante aux États-Unis n'a jamais reversé $1 à la maison mère à Caracas. Résultat, le pétrole en fait partait dans des mains privées et dans les mains des multinationales et ne profitait absolument pas à l'économie vénézuélienne. Ceci a eu beaucoup de conséquences dans l'appauvrissement du Venezuela et dans la crise qui l'a frappé. Pour comprendre maintenant comment Chavez est arrivé au pouvoir dans ce contexte, il faut dire deux mots de ce qui s'est passé en 1989. En 1989, il y a un président social-démocrate qui est élu au Venezuela, qui s'appelle Carlos Andrés Pérez. Il a fait campagne en disant qu'il allait aider les pauvres, qu'il allait résister aux multinationales, et dès qu'il arrive, le FMI, Fonds monétaire international, lui fait un prêt, mais en échange impose toute une série de mesures de régression sociale et notamment la hausse du prix du pétrole au Venezuela. Du jour au lendemain, ça se passe le 27 février 1989, les gens qui prennent les autobus à Caracas, c'est-à-dire les ouvriers, les ménagères, les étudiants aussi, découvrent que le prix du bus a doublé. On est à la fin du mois, ils ne peuvent pas payer, c'est vraiment la panique et la colère aussi. On renverse 2-3 bus, on s'assied dans la rue et on bloque la circulation. La colère est vraiment énorme. Le lendemain, on va même commencer à aller se servir dans les magasins avec un certain ordre. C'est-à-dire que les gens se servent dans les magasins et puis ils répartissent à ceux qui sont trop vieux ou qui n'ont pas pu se déplacer. Et donc, c'est réparti. Et la police ne bouge pas pendant 24-36 heures. Et ensuite, le président Carlos Andrés Pérez va ordonner à la police et aussi à l'armée de tirer sur la foule. Donc on tire sur des manifestants qui sont assis, on rentre dans les quartiers populaires, on mitraille, il y a des bébés qui sont assassinés dans leur berceau. Et ça, cet événement-là, qui va faire, selon les estimations des ONG, 3000 victimes, c'est les gens vont appeler ça le Caracas, la catastrophe de Caracas. Caracas, 3000 victimes. Est-ce que vous en avez entendu parler? Pour ceux qui avaient l'âge, rien. À l'époque, on nous a rabâché les oreilles avec un soi-disant charnier à Timișoara, 4612 victimes, bien comptées, bien précises, c'était bidon. Par contre, il y avait vraiment des victimes à Caracas, ça c'était les victimes de la Banque mondiale, du FMI, donc de non-multinationales, et ça, zéro information. Mais cet événement, le Caracasso, dramatique, il va avoir une très très grande importance. Ce jour-là, c'est le divorce entre le peuple du Venezuela et tous ses dirigeants, tous les partis qui ont fait ce système, qui se sont remplis les poches, qui ne tiennent aucune de leurs promesses. C'est vraiment le divorce. Et en 92, il va y avoir deux coups d'État militaires, deux militaires de gauche qui veulent mettre fin à cette situation épouvantable. Et un de ces coups d'État est organisé par un petit colonel de province qui s'appelle Hugo Chavez. Et Hugo Chavez, c'est le fils de deux instituteurs pauvres, c'est en plus un métis afro-indien. Et il faut savoir qu'au Venezuela, la haute bourgeoisie n'a jamais considéré que la carrière militaire, c'était vraiment bien top pour ses enfants. Et donc, il y a pas mal de gens issus des classes populaires qui sont dans les officiers moyens et même d'un certain niveau. C'est assez original en Amérique latine. Et en plus, l'armée va commettre la bêtise énorme de confier à cet Hugo Chavez une tâche de formation des jeunes officiers à l'académie militaire. Ça, évidemment, c'est la gaffe. En plus, on est dans l'époque après Che Guevara, après beaucoup d'agitation dans les universités d'Amérique latine. Et donc, Chavez est très perméable à tout ça et à la théologie de la libération. Et il y a beaucoup de militaires qui basculent à gauche et qui, notamment, vont l'aider à réaliser ce coup d'État, cette tentative de coup d'État en 92, parce que ça va échouer. Il va y avoir une trahison. Et le coup d'État échoue, mais c'est très important ce qui se passe. En fait, le coup d'État est réussi en province, mais Chavez dirigeait les troupes qui devaient prendre le contrôle du palais présidentiel. Et là, il se rend compte que ça ne va pas marcher. Il demande à parler à la télévision pour éviter un bain de sang. Il s'adresse à ses camarades en province et il dit il faut arrêter. Et en fait, l'intervention, elle dure une minute, mais elle va être absolument décisive. Parce qu'il dit deux choses. D'abord, il dit « Pour le moment, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Por ahora. Pour le moment, nous n'avons pas atteint nos objectifs. » Les gens comprennent que c'est pas fini, qu'il y a un rendez-vous qui est pris. Et deuxièmement, il termine en disant « J'assume la responsabilité de tout ce qui est arrivé. » Ça, les Vénézuéliens ne sont pas du tout habitués à ce qu'un dirigeant politique ou autre dise « C'est ma faute. » Et donc, le petit colonel de province que personne ne connaissait, il va devenir, va un peu incarner l'espoir. Bien entendu, il est mis en prison. Mais comme le Venezuela est en crise, le président qui avait fait tout ça, il va être pris la main dans le sac pour corruption, il va être destitué. Son successeur va libérer les putschistes. Et c'est intéressant parce que Chavez est invité par Castro, directement par Castro à Cuba. Il est reçu avec beaucoup d'honneur et ils discutent longtemps ensemble. Fidel demande à Chavez « Et maintenant, tu vas faire quoi ?» Alors Chavez dit « Je songe à former un mouvement des militaires honnêtes en Amérique latine et créer un mouvement comme ça. » Et Fidel sourit, mais il n'est pas très convaincu. Il dit « Tu sais, c'est vrai qu'au Venezuela, il y a pas mal de militaires qui ont le cœur à gauche ou en tout cas qui sont indépendants et patriotes. » Mais dans le reste d'Amérique latine, j'y crois pas trop. Il faudrait plutôt présenter un programme politique et se présenter aux élections. Chavez fait ça. Et en 98, il gagne l'élection présidentielle. Grosse surprise. Mais pour être honnête, il faut dire, c'est pas lui qui gagne, c'est tous les autres qui perdent. Ils sont tellement discrédités que vraiment, la place est libre pour un homme nouveau. Et par chance, cet homme nouveau-là, il est honnête et il est décidé à tenir ses promesses. La première chose qu'il va faire, c'est de faire voter une nouvelle constitution, mais après une large discussion populaire sur tous ces articles, et une constitution qui affirme que les richesses et le pétrole du Venezuela appartiennent à tous les Vénézuéliens et doivent leur appartenir. Une constitution extrêmement démocratique sous plusieurs aspects. Et il annonce ensuite qu'il va récupérer l'argent du pétrole. Je vous disais, la firme nationalisée du pétrole ne versait rien à l'État. Il dit il faut mettre fin à la caisse noire. Il faut que l'argent arrive vraiment à l'État et serve à aider les plus pauvres. Et là, quand il annonce ça, en plus en 2001, il commet l'affront envers Bush. C'est le seul chef d'État au monde qui va totalement désapprouver l'invasion de l'Afghanistan. Donc là, évidemment, il a signé sa condamnation. Et en avril 2002, on lui fait un bon petit coup d'État. On lui fait un bon petit coup d'État made in CIA. Et une jeune avocate de New York qui s'appelle Eva Gollinger, et c'est raconté dans ce livre, CIA contre Venezuela, elle montre qu'en fait c'est un coup d'État qui a été préparé par la CIA, et elle a obligé, par une procédure qui existe aux États-Unis, elle a obligé la CIA, les affaires étrangères, diverses institutions, a publié toute une série de documents, de rapports internes, de PV, de conversations, etc., où on voit qu'effectivement, ils savaient tout. Ils étaient au courant du coup d'État, ils n'ont rien dit. Et c'est eux qui l'ont organisé. On voit même, c'est très très intéressant, les noms des gens, des ONG, les montants énormes qui sont versés et les mécanismes. J'ai trouvé ce bouquin tellement utile que je lui ai fait une préface en montrant comment la CIA travaillait pour manipuler l'information, pour manipuler l'opinion dans d'autres pays avec le même genre de couverture. La CIA verse de l'argent à des journalistes, à des politiciens, à des syndicalistes, à des profs d'UNIF, à des ONG, à des soi-disant instituts de sondage, enfin toute une panoplie d'instruments soi-disant neutres qui en réalité servent à manipuler l'opinion et à faire passer des coups d'État ou d'autres agressions.
Soy tu Pamaro, perteneciente de la tierra del sol amado. No me voy, mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso. Y aquí me quedo con el madera. One more time.